écoute bien, car ça va se compliquer un petit peu.
1, 2, 3, 4!
CKUT, show pour le monstre, is radio émission super bon. Toutes les deux jeudis de 21h à 23h. Yeah, baby!
Bonsoir et bienvenue à l'ère du diable sur les ondes de CKUT.
Ben oui, vas-y.
Alors, nous reprenons avec une conférence d'Alexandre Saint-Onge, artiste de performance, mais d'abord compositeur, en fait, que je connais depuis très longtemps. Donc, dans la conversation qui va suivre, on va référer à des événements ou des choses inédites. Parfois honteuse.
Alors, lorsque... Toujours honteux.
Quand j'ai rencontré Alexandre, il disait qu'il était la réincarnation d'Antonin Artaud. Mais je dirais que ce n'est pas un Antonin Artaud qui essaie d'être Antonin Artaud, c'est un Antonin Artaud du 21e siècle. Parce qu'on a eu beaucoup d'émules d'Antonin et malheureusement, se sont cassés les dents parce qu'Antonin, copier l'original, ça fait souvent des pièces rapportées. Les pièces rapportées, on sait que c'est très dur, on se casse les dents dessus. Mais Alexandre Saint-Onge va donc nous présenter cette conférence sur le projet de résidence à l'École des médias et à Hexagram, créature hermétique dans mon char, bébé, des otages inaperçus. Alors, je vous avertis tout de suite qu'il va y avoir des références un peu à la Artaud, à toutes sortes de tabous, de composantes un peu abjectes, parce que Alexandre travaille beaucoup sur l'abjection.
Donc, vous êtes avertis. On le voit dans mon
mais je pense que même les enfants dans la salle, ça va. Luneva a déjà vu des performances, elle a l'habitude. Alors, ça va. Donc, on a un bon public. Je te laisse aller, Alexandre. Puis, dans 30 minutes, on discutera avec Armando Menicacci. Donc, je vais m'effacer, puis je te laisse l'espace.
Parfait. J'essaie d'être quand même pas trop long. Ça va être comme peut-être une vingtaine de minutes. C'est juste parler du... Parce que je pense que la plupart d'entre vous n'ont peut-être pas vu la performance. Fait que je vais juste parler plus des enjeux conceptuels puis du processus de création. Puis après, on va en parler avec Eric Permando. Mais je voulais juste parler des différentes étapes. Parce que pour moi, de toute façon, c'est jamais un effort de justification intellectuelle quand je présente les pièces ou je fais des artist talks ou des présentations d'artistes. Mais c'est plutôt une autre type de performance. C'est-à-dire, vu que ce que je fais, c'est très hermétique et occulte, je dirais. C'est de l'ordre un peu de la psychomagie sexuelle. Donc, c'est quelque chose qui, quand j'en parle, ça crée je dirais, ça occulte le sujet autant que ça l'explique. Donc, déjà dans le titre, « Créature hermétique dans mon char bébé, des otages inaperçus », contient déjà toute la structure de la pièce. Je dirais... Ce que j'ai dit, comme dans le texte de démarche qui est paru dans Archie, je dis que justement, créature hermétique dans mon char bébé des otages inaperçus est une perspective hémétique aninstitutionnelle portant sur l'altération du corps performatif à travers ses médiations sonores et textuelles. Donc, je dis dans cette performance sonore de 24 heures, un dispositif informatique établit un lien direct entre la captation des actions performatives par un système donc de capture de mouvement et l'enregistrement, la modification, la diffusion et la spatialisation en multicanal du matériau sonore transformé et produit par ces mêmes actions. Donc, je dis que si, a priori, le contenu de cette performance sonore est déterminé donc par les possibilités acoustiques pouvant émerger de la simple relation entre le corps performatif et l'espace dans lequel la pièce se déploie, celui-ci se complexifie continuellement à travers les métamorphoses que lui fait subir le dispositif technique. Donc, ça, c'est comme une base, c'est-à-dire... Donc, il y a un rapport direct avec aussi une improvisation entre le corps et l'espace, mais cette pièce-là est aussi écrite, puis il y a aussi une dramaturgie qui est liée à une recherche textuelle précise. C'est donc un cycle de 45 minutes qui est répété 32 fois, comme je l'ai dit, mais qui est donc en trois mouvements. Puis ces trois mouvements-là sont structurés selon une recherche textuelle puis une réorganisation textuelle précise. Le premier mouvement, c'est un détournement donc, d'un livre qui est devenu ma Bible, qui est le livre « Otage » de Claude Poirier, le fameux médiateur entre des criminels et la police. C'est un hommage aussi à mon ami Éric Letourneau, qui aime beaucoup la police, d'une certaine manière, et le rapport disciplinaire. T'sais, on parlait hier, justement, qu'on est dans l'art non disciplinaire, on essaie de toujours se sortir de la discipline, et Éric, en bon sadomasochiste, insistait sur l'importance de la discipline. Et en effet, c'est très important. Moi, je suis un être discipliné, mais je fais de l'art non disciplinaire. Donc, tout le premier projet de détournement textuel est basé sur cette image, en fait, qui est l'image centrale du livre, qu'on voit ici, qu'on le voit là, dans mon PowerPoint. Le premier mouvement s'intitule « Les poils du corps ». Donc, je faisais beaucoup... Tout le premier mouvement est basé sur une action corporelle où je me masse les poils du corps, justement, puis qui s'est saisi en temps réel en me massant auto-érotiquement le corps, en fait, qui est capté par le microphone, qui est enregistré en temps réel, puis qui est modifié aussi par mes mouvements corporels avec une Kinect, caméra infrarouge, etc., et des capteurs de mouvement qui réorganisent cette captation des poils du corps. Mais tout est basé sur une déconstruction a priori du texte. Donc, j'ai fait la première étape du processus de création, c'est que j'ai lu le livre d'une manière performative à travers le réverb.
Thank you. j'ai à me réaliser à une femme, le bloc, c'est l'héritage de mon psychologique.
Avec différents dispositifs informatiques qui réorganisaient le texte, donc dictée vocale, dans le principe de dictée vocale, qui comprend tout le temps. C'est ça qui est intéressant quand le rapport à la dictée vocale, c'est qu'il y a un rapport à l'homonymie, c'est-à-dire ce qu'on dit et ce qui est capté est toujours un rapport à essayer de conformer le texte qui est dit, même si on ne le comprend pas, etc. On dit un mot, ça essaie de le ramener le plus proche d'un mot dans la langue française, etc. Et ça, c'est réorganisé aussi toujours en temps réel en relation à mi-mouvement. Dans ce cas-ci, la première étape consistait à lire donc, tout le livre au micro. Mais en même temps, j'avais un autre micro avec un autre ordinateur qui pigeait la dictée vocale et qui, dépendamment de la tonalité de ma voix ou du grain de la voix, réorganisait aussi le texte, donc le déconstruisant en temps réel. Après, ça donnait une banque de données. Cette banque de données-là donnait donc un texte brut que j'ai tout réécrit. Fait que j'ai réécrit un texte. Et ce texte-là, en performance, était constamment donc réinjecté dans l'ordinateur. Et dépendamment des mouvements, donc sur l'axe, dans un espace avec un axe X, Y, etc., déconstruisait le texte, mais le texte n'était pas respecté selon les normes de la langue française, mais était comme utilisé comme comme fichier numérique, en fait. Donc, les mots pouvaient être coupés au centre, pouvaient être même coupés. C'est Patrice Coulombe qui a créé l'interface, qui est ici. Merci, Patrice, pour un grand artiste programmeur que j'adore et un ami depuis longue date, et qui est né d'ailleurs la même date que moi, le 16 mars. Donc, on a un lien occulte déjà par les...
Exactement, les cheveux.
Et les cheveux. Et donc, une interface donc, qui coupe les mots. Et lorsque je visualisais donc les mots à l'écran, que je redisais, donc je regardais les mots qui se déconstruisaient à l'écran, et en les disant, ça repassait dans un second ordinateur qui captait et qui essayait justement de comprendre les mots. Tu vois, par exemple, tu dis « en pile », puis tu le coupes, c'est « en », puis là, tu mettons « cible », puis là, c'est comme « en ible »,« Émile »,« Émile », puis là, ça va chercher donc « Émile », puis là, c'est un nom propre, etc. Fait que toujours un système comme ça, mais qu'après que je redis aussi, qui est renvoyé dans le système, donc un espèce de principe cybernétique de création textuelle qui évolue sur 24 heures, et ça pour les trois mouvements. Ce qui était pour moi hyper important dans cette image qu'on voyait juste ici, c'est que de là l'idée des otages inaperçus, c'est que c'est le premier texte que j'ai utilisé, c'est une longue lettre de suicide en fait, qu'un criminel avait écrit. Puis je me suis basé sur cette lettre de suicide, ayant passé aussi une année assez suicidaire moi-même, j'ai décidé, en quelque part, de canaliser, je dirais, symboliquement, pour mon désir profond de suicide, à travers un travail artistique. Puis de toute façon, ma création, c'est toujours une tension entre une expression subjective et une désubjectivisation, une déconstruction de ma subjectivité pour aller ailleurs, puis apprendre des choses, puis rester dans une posture d'apprentissage. Mais lorsqu'on arrive à penser d'une manière constante au suicide à tous les jours, la posture d'apprentissage, disons qu'elle s'arrête des simples affects très, très, très directs, très personnels, qui fait que cette déconstruction subjective-là arrive à un état de stérilité, je dirais peut-être, au niveau de la créativité. Et pour moi, c'était important de réinjecter ce fantasme de mort puis de désir de suicide dans ma création pour, en tout cas, pour m'aider, là, that's it. Puis, puis tout ce livre-là... De baser toute ma recherche sur une lettre de suicide était pour moi comme quelque chose qui était utile, mais aussi au niveau conceptuel, puis au niveau de ce que j'essaie de dire tout le temps dans ma création, même quand je ne suis pas suicidaire. Quand on est suicidaire, je pense qu'on l'est tout le temps. C'est un peu comme quand on est alcoolique, on l'est tout le temps, comme dirait Marguerite Duras, et moi je suis les deux. Mais dans ce cas-ci, ce qui m'intéressait, c'était justement ce qui n'était pas perçu dans l'image, c'est-à-dire reconstituer une image. Tu sais, souvent, comme dans une tradition d'art conceptuel, on reprend l'idée de la copie et de la reprise, puis du reenactment dans l'art conceptuel est omniprésent. Je viens quand même d'une tradition profondément conceptuelle, mais j'aimais l'idée d'aller dans ce mouvement.
Still.
qui n'était pas, justement, étant en résidence à l'École des médias, dans une université, de ne pas être dans un rapport, justement, savant, de travailler avec quelque chose qui est non savant, c'est-à-dire la langue populaire, une langue populaire qui est proche de moi, de toute façon. Même si j'ai un doctorat, je ne me considère pas comme un intellectuel savant, je me considère plus comme, je ne sais pas, un déchet, là. Mais, et je trouvais plus intéressant de partir de ça, partir du profond, de l'immanence même de, ontologique, pour développer un discours imaginaire, fictif, cathartique. Et ce que je trouvais intéressant dans cette image, c'est surtout de voir justement ce qui est à côté du sujet même, qui est le suicidé même. Donc, on voit sa lettre de suicide qui est juste à côté, mais justement, j'ai pas considéré la lettre de suicide, j'ai pas considéré le suicidé, c'est comme c'est l'otage inaperçu. Donc, pour moi, les poils du corps, quand me tugissent. Moi-même, Étant comme dans la première, dans le premier mouvement, je m'auto-strangule, tout le texte est dit
d'une manière comme ça, où je me trompe, je me donne, c'est...
Travailler vraiment la voix, mais d'une manière d'auto-strangulation, comme si justement j'étais dans un rapport auto-érotique avec moi-même, mais aussi un otage de moi-même, dans un rapport de violence faite au corps. Constamment comme ça, qui est réinjecté. Quand il parlait, Eric, que j'ai eu le fantasme aussi, parce que c'est un fantasme, hein, je ne suis pas la réincarnation d'Antonin Artaud, mais quand j'étais jeune, j'ai fait une psychose, puis dans ma psychose, j'étais convaincu que j'étais une réincarnation d'Antonin Artaud, ça c'était en 2005. Chez Artaud, cette présence du corps, puis de l'auto-érotisme, puis de l'idée d'être en asile, comme que notre corps est aussi un asile, etc., puis qu'on est pris avec soi-même. J'ai travaillé à partir de ça, au niveau performatif. Là, on voit ici justement la lettre de suicide, à partir de laquelle j'ai travaillé, qui a donné un texte, je dirais, ça c'est après, ça c'est plus conceptuel. Je voulais juste vous réciter peut-être juste la fin du texte. Ça, c'est le texte construit qui a été après reconfiguré. Donc, il faut que j'agrandisse, c'est sur mon iPhone. C'est un exemple du texte que j'ai a priori donc, écrit à partir du tournant du livre, puis après que j'ai travaillé en performance, que j'ai redit, qui était reconstruit par ordinateur et que je redisais, puis qui était réinjecté continuellement dans la machine. Donc, c'est la dernière page de mon livre qui est paru dans Archie. D'ailleurs, il y a un lien avec le fichier PDF où on peut lire le texte entier. Pour moi, c'est un de mes textes préférés que j'ai écrit à date. Donc, quand le spectre, son micro, nos cellules sont éclairées, ne peux plus vivre la nuit dans ton texte. Pauvre, tu es prêt. Dans 5 minutes, dit le technicien. Moi, je vais reprendre le micro. Il trancha la gorge avant de mutiler les organes. À l'oreille, cette plaisanterie, dans les mains, une éternité. À proximité des yeux, dans la pièce, la souffrance. En ce sens, le temps était encore impossible. L'agonie, la solitude, désormais monstre. Puisque je parle de trancher la gorge, un refus. Le fragile équilibre, sous ses excuses, l'établissement au moindre bruit. C'était une arme, un revolver. L'inventaire des possibles, un plan d'action, l'anonymat. Un plan d'action, l'anonymat. Des murs, la sécurité informatrice sans fondement, l'anonymat, protester la chute, l'inquiétude de croire depuis toujours qu'elle prenait fin aujourd'hui. J'ai décidé que ma vie prenait fin aujourd'hui. Donc, j'ai décidé que ma vie prenait fin aujourd'hui. C'était comme, pour moi, un mantra tout dans la dernière année où je me disais toujours ça, que j'ai décidé que ma vie prenait fin aujourd'hui. Mais pour moi, ce qu'au début, quand je vous montrais la triangulation, amour, destruction, création, c'est que pour moi, justement, cette fin, cette destruction-là, la mort, le désir de suicide, c'est aussi tout le temps quelque chose qui ouvre un possible, qui ouvre quelque chose qui est une destruction pour mieux renaître puis essayer un possible. Justement, toujours faire table rase, mais ça, c'est mon côté aussi punk puis nihiliste. C'est tout le temps détruire pour mieux reconstruire, mais pour moi, c'est jamais justement une négation ni du potentiel ou de potentiel du possible, mais au contraire, c'est une exacerbation du possible par l'amour, par la destruction. Quand je disais « tu serais déjà possible », thank you. Je vous montre un petit détournement d'une phrase de Berkeley, là, « To be is to be perceived ». C'est que pour moi, justement, être, ce n'est pas nécessairement être perçu. Fait que dans cette pièce-là, cette idée que être, ce n'est pas nécessairement être perçu, est là à plusieurs niveaux. Donc, le suicidé qui est exclu, qui n'est pas perçu dans la photo. Fait que quand vous voyez la photo, on ne voit pas le sujet, en fait. Le sujet est toujours exclu. Comme un peu, pour moi, c'est important toujours de déconstruire ma subjectivité, mes intentions, mes goûts, etc. Dans le fond, c'est des principes classiques liés à l'avant-garde de la baronesse Elsa von Freytag à nos jours. Où cette idée que ce qui est perçu, c'est pas nécessairement seulement ça le réel. C'est-à-dire de toujours se rappeler, pour moi, ça c'est au niveau éthique, que les choses qu'on ne voit pas, pas à cause qu'on ne voit pas quelque chose, que ça n'existe pas. Puis pour moi, c'est un mantra quotidien, c'est-à-dire tout ce que je ne vois pas, tout ce qui n'existe pas à mes yeux, tout ce qui n'est pas perçu, justement, est quelque chose qui existe. Il y a des choses, tu sais, les technologies, justement, numériques, etc., nous ont donné accès à de l'imperceptible, que ce soit l'invention du microscope, à les nanotechnologies, etc., mais aussi, juste dans la vie, comme, mettons, je pourrais référer à tous les outsiders, tous les artistes d'art brut, d'outsiders, comme, mettons, Henri Dergé, qu'on ne savait pas qu'il a fallu, une fois mort, des gens ont ouvert sa chambre puis ont vu quoi, une biographie de 3000 pages, un livre de 35 000 pages, des milliers de tableaux. Tout ça, c'était inaperçu. Là, il est rendu connu, mais tous ces gens-là qui n'ont pas parole, qui sont justement non perçus, etc., pour moi, ont une importance comme capitale dans ma tête tout le temps, même si on ne sait pas.
Thank you. Thank you.
dans le sous-sol de plein de personnes, là, sans savoir. Comme moi, cette année, j'ai acheté l'entièreté de l'œuvre de Normand Lamour avec Éric. Justement, lui, il a acheté 100 cassettes. Moi, j'ai acheté 200 disques. T'sais, c'est hallucinant. Là. Je veux dire, il y a deux disques qui ont été produits en studio par son producteur, mais c'est 210 qu'il faisait chez lui puis qu'il brûlait sur des CDR. Là, c'est vraiment fantastique. Puis moi, à chaque jour, j'écoute un disque de Normand Lamour depuis un an, puis ça me fait tellement du bien. Puis moi, je trouve que ce que je fais, mon travail, est plus proche de Normand Lamour que n'importe quel artiste dit d'importance. Donc, il y avait aussi des reenactments liés à différents trucs, comme justement, quand j'ai acheté ce livre-là, Claude Poirier, je l'ai juste comme... En fait, c'est ça qui a décidé de la photo. Je l'ai juste lancé dans le bus en revenant de Saint-Hyacinthe. Après d'avoir acheté justement les 210 de Normand Lamour, j'étais allé à Sorel avec un ami, j'ai acheté les 210 de Normand Lamour. Là, c'était comme, OK, qu'est-ce que je fais à soir? Ben, je vais rentrer à la maison et je vais en écouter. Bon. Puis là, je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce que je fais? J'ai mis un sac en papier brun, comme ça, parce que moi, mes objets préférés dans la vie, c'est le masking tape, les tie wraps, puis les ziplocs, puis les sacs en papier brun. C'est vraiment mes objets cosmologiques préférés. Fait que j'ai mis le sac en papier brun, j'ai lancé le livre, et c'est quoi qu'on voit dans la page donc, de gauche? C'est un sac en papier brun, puis il y a un écho direct. Puis je me suis dit, c'est ça ma prochaine pièce. Ma résidence à l'École des médias, c'est ça. Je vais juste partir de ça, puis je vais tout partir de ça, puis je vais créer un univers fictif en relation à mon analyse de l'image, puis mes fantasmes liés à l'image. Fait que ça, c'était le premier mouvement. Après, j'ai fait une reconstitution. Tu sais, ça a l'air bien quétaine, comme avec ça, c'est mes premiers efforts Photoshop aussi, là, puis ça, j'aime bien ça. Mais c'est basé sur... J'ai mis l'image sur un iPod Touch, puis j'ai dit, bon, tu sais, on parle de numérique, hexagramme, etc. J'ai mis l'image sur un truc, puis vu que j'étais beaucoup, je magasinais beaucoup des fusils sur le dark web dernièrement, en bon fantasme de suicider, j'ai décidé de mettre l'image, de mettre le iPod et de le tirer avec mon gun. Et après, j'ai fait une modélisation informatique du coup de fusil sur mon iPod. Fait que ça, dans le fond, c'est le coup de fusil que j'ai tiré en mettant l'image sur mon iPod. Et tout ça, c'est devenu comme donc l'image fétiche qui est liée de la destruction du numérique. J'ai aussi fait des performances furtives, dont des performances donc dans le bureau de mon ami ici, André-Éric Letourneau, qui m'accueillait chaleureusement. Thank you. l'idée, des fois, après chaque performance que je faisais, d'aller tirer du gun dans son bureau. Fait que là, on voit, moi qui ai tiré des coups de fusil dans le bureau d'Éric ici, peut-être que tu t'en es peut-être même pas rendu compte, hein? C'est des petits coups de fusil, comme on voit ici, voilà, le coup de fusil, etc. Ouais. Le fusil, dans le fond, c'est un fusil qui est une copie. Hein. De là, dans mon char bébé, c'est que le bébé réfère au BB gun, c'est-à-dire des guns à plomb. C'est pas un vrai fusil avec des vraies balles. C'est une copie conforme d'un gun de police, là, qui était comme issu. J'ai analysé c'était quoi les guns, là, puis c'est comme c'est quoi. Puis là, j'ai des amis spécialistes en armes à feu qui m'ont dit c'est un Smith & Wesson, etc. Puis là, j'ai acheté ça, un bon gun. Puis vu qu'Éric me disait que formellement, j'ai pas le droit d'amener de gun ici sur le campus, je me suis dit juste. Ouais. Fait que c'est pour ça que je me suis dit il faut que je fasse des performances avec des guns que je mets un peu partout. Fait que je faisais des performances furtives où je déposais des guns, puis j'attendais de voir si la sécurité allait répondre. Fait que là, c'est comme. Je mettais ça. À l'église, à différentes places dans l'UQAM.